Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, le réveil culturel, c'est très tôt à la radio ou quand vous voulez, en vous abonnant au podcast de ce rendez-vous quotidien de l'actualité culturelle. Podcast ou écoute en ligne disponible entre autres sur franceculture.fr et tous les mardis, une recommandation pour une expo. Aujourd'hui on parlait d'Elena Rubinstein, l'aventure de la beauté, une exposition qui a lieu en ce moment au musée d'art et d'histoire du judaïsme et ce jusqu'au 25 août, en hommage donc à la reine des cosmétiques. La commissaire de l'exposition, Michel Fitoussi, est mon invitée ce matin.
Le réveil culturel, mardi, expo.
L'aventure de la beauté, Elena Rubinstein, donc c'est l'intitulé de cette exposition qui retrace la vie d'une pionnière de l'industrie des cosmétiques. Bonjour Michel Fitoussi.
Bonjour.
Alors avant d'être la commissaire de cette exposition qu'on peut voir au musée d'art et d'histoire du judaïsme, vous avez écrit il y a 10 ans une biographie d'Elena Rubinstein et je me souviens d'ailleurs vous avoir reçu à cette occasion. Alors qu'est-ce qui vous a intéressé dans la vie et la carrière d'Elena Rubinstein? Est-ce la femme qui inventa la beauté, pour reprendre le titre de votre livre édité chez Grasset, ou la self-made woman née dans une famille désargentée juive de Cracovie et qui va traverser le XXe siècle et finir par bâtir un empire? Ou est-ce l'experte du marketing, la femme de goût qui fréquenta et travaille avec les scientifiques et les artistes, l'entrepreneuse acharnée qui va devenir l'impératrice de la cosmétique? Qu'est-ce qui vous a intéressé?
Tout. Tout parce que c'est une femme géniale, vraiment. C'est une visionnaire, c'est une femme d'avant-garde. Quand on imagine qu'elle est née pauvre en 1872, à Casimirs, le quartier juif de Cracovie, dans une famille, comme vous l'avez dit, désargentée, assez pieuse, assez orthodoxe, et qu'elle s'affranchit de tout ça, qu'elle s'émancipe à la fois de la religion et à la fois de son genre, puisqu'elle refuse de se marier, et elle meurt 93 ans plus tard à New York. Elle est milliardaire, elle a tout fait toute seule, elle a bâti un empire, elle a contribué à l'industrialisation de la beauté et à sa culture aussi. Elle a été une grande collectionneuse, une grande mécène. En s'émancipant, elle a voulu émanciper aussi les femmes. Ça a été compliqué avec la beauté, hein, parce que...
Par le maquillage, vous voulez dire?
Alors, par le maquillage, oui, vous ne croyez pas si bien dire, parce que quand elle est arrivée à Londres en 1907, 1908, les femmes ne se maquillaient pas. Et pareil aux États-Unis, le maquillage était réservé aux prostituées et aux actrices, donc c'était un acte de rébellion que de se maquiller. Et d'ailleurs, en 1912, les suffragettes américaines qui défilent sur la 5e avenue pour réclamer le droit de vote, elles sont toutes habillées en blanc et elles arborent du rouge à lèvres en signe de rébellion. Donc, oui, c'est intéressant parce que quand Elena Rubinstein, en 1903, dit « La beauté, c'est le pouvoir, beauty is power », et qu'elle l'écrit dans les premières publicités de l'époque, dans les quotidiens australiens...
C'est pas seulement un manager, vous voulez dire, mais c'est une femme qui a une cause à défendre?
Alors, elle a sa propre cause à défendre, et c'est pas rien, parce que elle fait quand même, elle parcourt le monde quand même, hein. On l'expédie en Australie en 1896 parce qu'elle veut pas se marier, parce qu'elle est rebelle et parce que normalement, une fille comme elle, ça sort de l'école, ça s'occupe de ses sœurs et frères. Elle a 7 sœurs, donc elle s'en occupe. Elle va aider son père à l'épicerie familiale, et puis c'est tout. Puis elle attend le mariage. Bah elle, pas du tout. Elle se rebelle. Elle sait pas encore ce qu'elle veut faire, mais elle sait exactement ce qu'elle veut pas faire, et elle veut pas être cette jeune juive promise au mariage et qui va faire comme sa mère plein de gosses et puis s'occuper du foyer. Bon, on sait pas quoi en faire, on l'expédie. Et quand elle arrive en Australie, elle a traversé les mers, elle a 24 ans, elle mesure 1m47, elle a ce qu'on appelle la chouspa en yiddish, du toupet, du culot, elle est intelligente, elle est volontaire, elle est courageuse, et elle se bat tant et si bien qu'elle ouvre son salon de beauté en 1920. Et quand elle arrive en Australie, surtout, elle fait deux choses qui, moi, me fascinent. Elle change de prénom. Elle s'appelait Chaya, elle devient Elena. Chaya, c'est trop juif, elle en veut pas, ce judaïsme. Elle le met de côté. Et d'ailleurs, toute sa vie, elle va s'inventer des histoires, des origines. Elle est comtesse, elle va devenir princesse pour de vrai, mais en attendant, elle invente. Et puis,
faut dire que le XXe siècle lui donne de bonnes raisons, justement, pour cacher sa judéité.
D'excellente, mais elle la cachera pas. Elle s'éloigne du dogme, elle s'éloigne du culte, elle s'éloigne de la religion, mais elle reste quand même assez juive, et la petite juive de Cracovie, elle l'est toujours au fond. La deuxième chose qu'elle fait, c'est qu'elle biffe sur ses papiers d'identité 9 ans. Elle est née en 1872, elle sera née en 1880, et vous m'avouerez que c'est quand même beaucoup plus efficace qu'une crème de beauté pour rajeunir.
Alors, New York et Vienne ont déjà organisé une expo autour d'Elena Rubinstein, c'est autour de Paris, toujours au musée de l'histoire et de l'art juif, comme à New York, comme à Vienne. Est-ce que Elena Rubinstein est vraiment liée à la culture juive?
Oui et non. Oui, parce qu'elle est née dans un faubourg juif, dans un quartier juif de Cracovie. Ses parents étaient des juifs pieux, religieux, et que toute sa vie, elle va défendre en tout cas ce qu'elle est, son identité. Et notamment, elle va être en butte à l'antisémitisme, que ce soit à Paris, à Londres ou à New York. Et elle a des parades pour s'en sortir, notamment l'argent. Et elle change pas son nom, elle sera toujours Rubinstein. Et puis non, parce qu'au fond, c'est une femme universelle. Un rôle modèle. D'ailleurs, elle sort des musées juifs puisque en octobre, le musée du Quai Branly organise une exposition sur sa collection d'art premier. Elle a été une des grandes, grandes collectionneuses d'art premier. Elle possédait plus de 600 pièces et c'est ce que le musée du Quai Branly va s'attacher à recréer et à montrer.
Et Michel Fitoussi, quelques pièces sont présentes dans cette exposition en ce moment, hommage.
Oui, alors le musée du Quai Branly et sa commissaire Hélène Joubert ont eu la gentillesse de nous prêter deux pièces et de nous indiquer où on pouvait en trouver. Parce que quand on a commencé à chercher ces pièces, évidemment elles avaient déjà été préemptées par le musée du Quai Branly, mais ce que nous voulions avec la commissaire adjointe Dorota Sniezek, nous voulions montrer un échantillon à chaque fois de ces collections et ces pièces d'art africain qui sont très belles, voisines avec sa collection de sculptures, un échantillon de sa collection de sculptures d'Elina Delman, qui est un grand sculpteur, mais plutôt classique, qui sculptait dans le marbre des profils et des statues très grecques classiques. Et ça montre à quel point elle aimait les visages et elle avait la passion du visage humain et du visage féminin en particulier.
Alors, comment se présente cette exposition? Comment, à partir d'éléments biographiques, concevoir une exposition qui raconte l'histoire de cette femme, Elena Rubinstein?
Alors, je vous avoue que commissaire d'exposition, que c'est pas mon métier. J'en ai fait beaucoup, mais c'était la première fois et j'étais très heureuse que le MAJ me le propose. Et on s'est appuyé sur l'exposition de Vienne dans le parcours, puisqu'on a imaginé, on a reproduit le parcours qu'avaient imaginé Daniel Spera et Iris Meder à Vienne, qui étaient les sept villes phares d'Elena Rubinstein.
De Cracovie à New York.
Cracovie à Tel Aviv,
effectivement.
Oui, elle va donner des... Voilà. Et elle meurt à New York. Mais Cracovie, Vienne, parce qu'elle passe par Vienne. Ensuite, Melbourne, puis Londres, puis New York. Et effectivement, Paris et Tel Aviv. Et Paris étant une de ses villes préférées. Donc, on s'est appesanti. Enfin, on a mis plus de choses dans Paris. Parce que c'est vrai qu'elle a adoré Paris. Qu'elle a rencontré des peintres. Qu'elle a rencontré tous les artistes importants. C'était à Paris. Et c'était aussi avec son mari, son premier mari, Édouard Titus, qu'elle a fait tout ça. Et puis on a agrémenté la proposition initiale du musée de Vienne d'œuvres d'art, d'œuvres que nous ont prêtées des collectionneurs privés, des musées, qu'on est allé chercher à Tel Aviv ou à Washington pour les statues de Nadelman dont je vous parlais à l'instant. On a pris des tableaux, un Chagall par exemple qui est absolument magnifique parce qu'elle aimait beaucoup Chagall, elle l'a rencontré dans les années 20. Louis Marcoussi qui était un sculpteur et un graveur polonais, qui l'a beaucoup accompagné dans les ateliers de peintre où elle allait acheter, disait-elle, en gros. J'achète en gros, pas en détail. Elle exagérait parce qu'elle achetait vraiment très bien et même quand elle se trompait, elle achetait encore très bien. Donc il y a tout ce parcours aussi artistique qui était très important à montrer. Et puis le parcours de la mode, parce que les vêtements de Madame Rubinstein de Worth, la première robe du soir qu'elle achète en 1905 à Saint-Laurent. Elle était la première sur le front row, le premier défilé de Saint-Laurent. Elle avait 90 ans. C'est un peu l'histoire de la mode et en tout cas de la haute couture puisqu'elle s'est habillée chez Poiret, Chanel, Doucet, Balenciaga, Schiaparelli. Enfin, elle s'est fait vraiment beaucoup photographier dans ses tenues magnifiques.
Alors, vous parlez justement, Michel Fitoussi, de Paris, de l'importance de Paris dans le parcours d'Elena Rubinstein, à Paris où elle va connaître Jean Cocteau, qui va la nommer l'impératrice de la beauté. Cette exposition devient intéressante parce que effectivement, quand on parle d'une femme qui va faire fortune et qui va bâtir un empire des cosmétiques, on se dit, mais c'est une histoire commerciale. Or, avec Elena Rubinstein, elle a tout inventé. Il s'agit d'une pionnière. C'est-à-dire travailler avec des scientifiques, travailler avec des artistes. On l'écoute ici dans une interview de 1960 où elle explique d'une manière mais la plus sérieuse possible, Elena Rubinstein, comment elle a mis en place ses premiers maquillages.
J'ai gagné beaucoup d'expérience en Australie pendant 3-4 ans. Mais je n'étais pas du tout contente. Je voulais étudier avec les différents docteurs scientifiques. À Berlin, à Vienne, et je sacrifiais encore 18 mois à l'étude. Et après ça, je commençais à Londres. J'ai engagé une doctoresse de Vienne et une autre d'une autre de Leipzig.
Voilà, c'était Elena Rubinstein.
Elle a une petite voix douce. Ouais. Hein, c'est une petite femme, petite par la taille, mais grande par tout ce qu'elle a fait, effectivement.
Mais quand on l'interviewe au début des années 60, on interviewe effectivement celle qui a participé à l'aventure de la beauté, pour reprendre le titre de l'exposition en ce moment consacrée à Elena Rubinstein au musée d'art et d'histoire de judaïsme. Mais là, dans ses propos, il n'y a pas de glamour. Elle explique comment elle a dû travailler, réunir des compétences, tester.
C'était une bosseuse. C'était vraiment, il n'y a pas de secret. D'ailleurs, elle disait, j'aime le travail acharné parce qu'il éloigne les rides de l'âme et de l'esprit. Et c'est vrai, toute sa vie, elle a travaillé très dur. Elle a travaillé dur pour réussir. Elle a travaillé dur pour rester au sommet. Pour y arriver, bien sûr, pour rester au sommet. Et ça a été.
Pour se battre avec ses rivales parce qu'elle va en avoir.
Oui. Et elle est pas seule, hein. Et c'est vrai qu'elle est d'avant-garde parce qu'elle invente beaucoup de choses dans le domaine de la cosmétique et qu'elle comprend très vite beaucoup de choses.
Alors, qu'est-ce qu'elle invente, Michel Fitoussi?
Alors, elle comprend très vite que la peau se classifie en trois. Il y a trois types de peau, normale, sèche et grasse. Elle comprend qu'il faut hydrater la peau, elle comprend qu'il faut la protéger du soleil. Ça a l'air très simple et tout à fait naturel aujourd'hui, mais n'oubliez pas qu'on est au début du XXe siècle. Elle comprend surtout que la beauté va émanciper les femmes. C'est-à-dire que la beauté va leur permettre d'être elles-mêmes et de se réinventer. Comme elle-même s'est réinventée d'ailleurs, puisque elle n'était pas une très belle femme, mais chignon bas, très de rouge à lèvres, c'est sa signature et elle sera toujours la même chose. Elle comprend vraiment tout ça pour que les femmes puissent devenir plus belles, plus séduisantes et aller travailler surtout.
«
Le réveil culturel. Tufik Hakem.
That certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and a nightingale sang in Berkeley Square. I'm perfectly willing to swear that when you turned and smiled at me, a nightingale sang in Berkeley Square. The moon that lingered over London, how could he know we two were so in love? The whole darn world seemed upside down. The streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair. Nightingale sang in Berkeley Square.
Était-elle du genre à aller danser en écoutant les orchestres de New York, de Glenn Miller, comme on vient d'entendre, Michel Fitoussi. On parle bien sûr d'Elena Rubinstein, L'aventure de la beauté. C'est l'exposition qui a lieu en ce moment et ce jusqu'au 25 août au Musée d'art et d'histoire du judaïsme.
Non, je crois qu'elle était surtout du genre à travailler. Elle bossait vraiment tout le temps, jour et nuit. Elle avait toujours de nouvelles idées. Et puis, quand elle ne travaillait pas, un de ses plaisir préféré, favori, c'était d'aller dans les galeries des peintres, dans les ateliers des peintres, dans les galeries de peinture, et d'acheter des tableaux, ou d'aller à Drouot, acheter de l'art premier. Elle a commencé sa collection d'art premier, qui est une des plus belles collections qui existent, Elle avait 600 pièces. Quand elle était à Londres, c'est le sculpteur Jacob Epstein, qui était un ami de son mari, qui l'envoyait à Drouot, parce qu'elle allait souvent à Paris, et puis elle a compris qu'elle pouvait acheter pour elle de l'art premier. C'était très précurseur, hein. Et puis, quand elle est arrivée à Paris, elle a rencontré Missia Certes, qui tenait salon et qui avait été peinte maintes et maintes fois par des peintres. D'ailleurs, on a un tableau de Vuillard qu'il a peint 90 fois. Et Missia lui a expliqué qu'elle pouvait recevoir, qu'elle pouvait tenir un salon comme elle. Donc, elle a reçu des peintres. Elle est allée dans les ateliers avec Missia. Et puis, elle s'est fait peindre elle-même. C'est le conseil que Missia lui a donné. Et le premier tableau représentant Elena Rubinstein date de 1908. C'est Paul et Le. Et puis, il y en a eu une vingtaine d'autres. Et Dufy, Sarah Lipska, Dali, Marie-Laure Ancin, Christian Bérard, Paul Tchalitchev l'ont peinte.
Elle en fréquentait d'autres, Picasso entre autres.
Oui, Picasso qu'elle aimait beaucoup, qu'elle a commencé à acheter en 1920. D'ailleurs, il y a une très belle tapisserie de Picasso dans l'exposition qui nous a été prêtée par Maya Picasso et qui a été réalisée par la maison Mirbeau, tenue par Marie Kitoli, qui était devenue une grande amie d'Elena Rubinstein et qui éditait des tapisseries d'après des dessins ou des peintures de peintres célèbres. Et Picasso, à qui elle a demandé de faire son portrait et qui a obstinément refusé. Il n'a fait que 30 croquis d'elle, mais jamais il ne l'a peinte. Et selon le biographe de Picasso, John Richardson, qui est mort récemment, c'est parce que Picasso avait peur d'elle et qu'il se disait que si jamais il terminait le tableau de Madame Rubinstein, qui était un peu effrayante quand même vers la fin de sa vie, hein, autoritaire et un peu tyrannique, et ben s'il terminait ce tableau, et ben il allait peut-être mourir. Alors donc il s'est dit qu'il valait mieux pas et vraiment elle l'a harcelé, hein, mais il n'a pas terminé le tableau.
Bosseuse d'abord, vous terminez oui. Par tyrannique, Michel Fitoussi, pour parler d'Elena Rubinstein, mais est-ce qu'on peut dire que entre entre-temps, elle a été plutôt une chef d'entreprise, plutôt rusée, ne reculant devant rien, c'est-à-dire y compris vis-à-vis de la concurrence, être assez combattante, pour ne pas dire autre chose.
Alors, d'abord, vous imaginez qu'elle a réussi toute seule. Hein. Elle a eu deux maris, le deuxième l'a faite princesse, le premier a été son mentor, mais c'est elle qui gagnait l'argent. Hein. Donc, et quand elle a coupé les vivres au premier, il avait plus d'argent. Donc, il a fallu quand même qu'elle se batte, certes dans un siècle où le marché de la beauté était en friche et où elle est arrivée au bon moment, mais quand même pour rester, comme vous l'avez dit, au sommet et pour évincer les autres, il fallait qu'elle se batte. Sa principale rivale était Elisabeth Arden. Elles se détestaient, elles étaient au même niveau. Elisabeth Arden, comme elle, avait très bien réussi aux États-Unis, elle réussissait très bien dans le monde entier. Elles ne se sont jamais rencontrées. Elena Rubinstein l'appelait avec dédain l'autre femme. Tous les coups bas étaient permis. Elena Rubinstein a engagé le mari d'Elisabeth Arden quand celle-ci a divorcé et que le mari n'a plus travaillé dans l'entreprise. Elisabeth Arden a engagé les directeurs commerciaux qui quittaient l'entreprise de Madame Rubinstein. Elle se copiait sur les publicités, sur les produits, y compris les salons de beauté, puisque quand Elisabeth Arden a ouvert un salon sur la 5e avenue avec une porte rouge, Elena Rubinstein a vu rouge aussi, et elle a ouvert son 4e salon de beauté à New York, qui était une pure merveille, peut-être le plus beau de tous, avec, comme dans chaque salon de beauté ouvert dans le monde, des œuvres d'art, des Brancusi, sa collection d'art premier, Sena Delmas.
Alors, c'est vrai que ces salons de beauté étaient de toute beauté, on peut le dire. Hein. C'est-à-dire qu'elle avait du goût, mais ça ne l'empêchait pas de faire des mauvais coups. En 1935, elle va racheter d'une manière très secrète, on peut le dire, la licence du mascara qui va devenir après une de ses inventions, entre guillemets.
Elle la rachète à Vienne, chez une comtesse viennoise, et elle la lance en 1939 avec une idée géniale qui est un balai nautique, c'est le mascara waterproof. Et évidemment, à l'exposition universelle de New York, ça cartonne. Et elle va faire la même chose en 58. Elle rachète aussi une licence du mascara. Vous savez, avant, on crachait dans une petite boîte et puis avec une brosse, on se noircissait les cils. Ben là, le mascara devient automatique, c'est-à-dire que c'est un tube. Et elle achète la licence et c'est un tabac. Mais évidemment, c'est pas elle qui l'a inventé. Mais elle a le génie de s'approprier tout ce qui est nouveau, d'avant-garde, d'en faire son miel. C'est une éponge. Et c'est ça qui est formidable.
Et de réunir aussi bien les scientifiques que les artistes, oui, que les experts du marketing. Parce qu'elle a été aussi une grande prêtresse du marketing pour les cosmétiques.
Vous imaginez que sa première publicité, elle date de 1903, que son égérie est une cantatrice australienne qui dit que Madame Rubinstein lui a sauvé la vie parce qu'elle a mis sa crème, que c'est paru dans tous les quotidiens australiens. C'est vraiment très très d'avant-garde. Et quand dans les années 50 elle engage David Ogilvy, Monsieur Madman, qui a pignon sur rue sur Madison Avenue et qui va lui faire des publicités absolument incroyables en engageant des grands photographes comme Erwin Blumenfeld, c'est aussi une façon de montrer qu'elle est toujours la reine du marketing et la reine des cosmétiques. Ça va ensemble, hein, c'est lié pour elle.
Et aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, la marque se défend pas mal. Il y a eu
Elle a
été rachetée par L'Oréal en 1988.
Donc c'est passé sous le giron français.
Sous le giron français. Et après avoir subi des déboires, puisqu'elle avait été vendue à Colgate Palmolive et que ils l'ont mise sur le mass market, ce qu'elle refusait absolument. Elle pensait que la beauté devait avoir un prix et qu'on devait payer cher ces produits de beauté. Les femmes devaient payer cher parce que c'était important que la beauté, que la crème qu'elles avaient, même si elles achetaient rien d'autre de luxueux, c'était au moins une crème de beauté. Et la marque marche plutôt pas mal, et surtout ça marche très bien en Asie, parce que les Chinoises particulièrement adorent les produits de beauté pour la peau, et qu'elles adorent le luxe aussi, et que cette marque rassemble tout ce qu'elle aime, y compris ce storytelling qu'Elena Rubinstein a inventé, puisqu'elle s'est beaucoup amusée à recréer sa légende sans cesse, à mentir sur sa vie et à vouloir qu'en bien ou en mal, on parle toujours d'elle.
Et la collection d'art d'Elena Rubinstein?
Alors, elle a été dispersée à sa mort. Elle est morte en 1965. Ses héritiers, son fils survivant, l'autre était mort. Ses neveux et nièces sont tous dispersés. C'est la galerie Park Bennett à New York qui a tout vendu. Elle a donné ses tenues de haute couture et quelques-uns de ses vêtements, de ses bijoux et de son mobilier à ses héritiers, mais toute la collection a été dispersée, et y compris les 20 tableaux d'elle qui sont restés des années accrochés à la fondation Elena Rubinstein qu'elle avait créée en 1953 et qui a été dissoute récemment. Et là, les héritiers ont vendu.
Elena Rubinstein, l'aventure de la beauté, c'est au musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'au 25 août. Merci Michel Fitoussi.
Merci infiniment.
Je rappelle que vous n'êtes pas seulement la commissaire de cette exposition, vous êtes aussi l'auteur de La femme qui inventa la beauté, donc cette biographie d'Elena Rubinstein parue chez Grasset il y a 10 ans. Vous pouvez réécouter cette interview en passant par franceculture.fr, émission préparée avec Maël Ray et Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin la technique, Marie Lepeintre. À demain.
Merci.